Voilà, bonjour. Je suis très heureux, d'être avec vous ce matin. C'est toujours pour moi une joie de venir ici à Bienne. J'habite à Fribourg, c'est pas très loin. Je disais tout à l'heure, depuis une des fenêtres de mon appartement, je vois le chasseral. Donc voilà, le trajet est très vite fait. J'aimerais ce matin lire avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. En fait, Denis y a déjà fait allusion en tout début de ce culte, mais il a cité la version de Matthieu, et je vais citer la version de Luc, mais on s'arrêtera pour le message dans la deuxième partie du texte. Mais je lis donc, ça se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 9, depuis le verset 18, et on retrouve donc ce qui était dit tout à l'heure. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question: les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et que les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus avec les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Si je ne fais erreur, j'avais déjà fait remarquer lors de mon dernier passage parmi vous que l'auteur de cet évangile, c'est-à-dire Luc, attachait beaucoup d'importance à la vie de prière de Jésus, à tel point qu'il en fait mention à 7 reprises. Et lors de 3 de ces mentions, lorsque Jésus prie, des manifestations surnaturelles se produisent. C'était le cas lorsque Jésus a été baptisé. Juste après, il est dit: pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et puis c'était le cas également dans le jardin de Gethsémané. Peu avant que Jésus soit crucifié, alors qu'il priait, il est dit, un ange lui apparut pour le fortifier. Et puis, c'est le cas encore ici, dans notre texte, où il est précisé, pendant que Jésus priait, son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il arrive en effet, quand on prie, que le surnaturel rejoigne le naturel ou que le ciel s'approche de la terre. Mais ce matin, on va en rester là pour ce qui est de la question de la prière, afin de nous arrêter plus spécifiquement sur cet événement de la transfiguration. Et en fait, on s'en aperçoit peut-être pas toujours, mais on a dans cet événement de la transfiguration, en quelque sorte, la bande-annonce du retour de Jésus. Comme Jésus est venu une première fois, il reviendra une seconde fois. Mais il ne reviendra pas comme il est venu la première fois, c'est-à-dire comme un simple homme. On sait par les textes bibliques que lorsque Jésus reviendra, il descendra du ciel revêtu de gloire. Et quelques-uns des disciples qui étaient avec Jésus ont comme vu par avance cette gloire. Et pour eux, c'était très important. Parce que comme vous avez pu l'entendre dans la lecture, avant cet événement de la transfiguration, Jésus avait parlé avec ses disciples de sa mort à la croix. Et pour les disciples, cette idée que le Messie devait mourir un jour, devait mourir à la croix, était quelque chose qui ne cadrait pas tout à fait avec la perception, la compréhension qu'ils avaient de qui devait être le Messie. Pour eux, ce Messie devait être quelqu'un qui allait venir, qui allait libérer le peuple d'Israël de l'oppression des Romains, et puis qui allait établir son règne. Et leur idée était tout à fait exacte. Elle était incomplète, sans la notion, sans la question de la croix, mais elle n'était pas fausse pour autant. Elle était tout à fait exacte parce qu'on sait, nous, qu'un jour, Jésus reviendra, et en effet, il rétablira le royaume d'Israël, et il établira son règne sur toute la terre. Et il ne fallait pas que les disciples oublient cet aspect-là au détriment de la croix. Ils avaient besoin d'être enseignés sur la croix, mais il ne fallait pas qu'ils perdent la perspective du retour de Jésus, de son retour en gloire et de son règne qui vient. Et on a par les textes bibliques deux bonnes raisons de penser que cet événement de la transfiguration était bel et bien la bande-annonce de son retour. Le premier de ces éléments, c'est ce que l'apôtre Pierre, qui était présent lors de la transfiguration, dira plus tard dans sa deuxième épître. Lorsqu'il écrit sa deuxième épître au chapitre 1er et au verset 16 et 18, il dit ceci, je le lis, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. À partir de là, les choses sont claires. L'apôtre Pierre fait clairement un lien entre ce qu'il a vu, aperçu, sur cette sainte montagne, et puis cette venue, puisqu'il parle de la puissance et de l'avènement du Seigneur. En disant, on ne vous a pas fait connaître ces choses parce qu'on a entendu quelques bruits de couloir à ce sujet, mais on a vu sa gloire, on a vu sa majesté, déjà alors qu'on était avec lui sur la sainte montagne. Et puis, la deuxième raison qu'on a de penser que cette transfiguration, eh bien, la bande-annonce du retour de Jésus, c'est ce que Jésus dit lui-même juste avant, quelques jours avant, 8 jours avant, d'après le texte de Luc, lorsque, au verset 27 du texte qu'on a lu, il dit ceci, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Et l'évangéliste Matthieu a cité également cette parole de Jésus, mais avec une petite nuance. Et il dit ceci, on trouve cela dans Matthieu 16, 28, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » On peut faire à partir de là une déduction très simple. Le royaume de Dieu dans l'évangile de Luc égale le Fils de l'homme venant dans son règne dans l'évangile de Matthieu. Et lorsque les disciples ont entendu ça, ils pouvaient légitimement penser qu'ils seraient encore vivants ou que quelques-uns d'entre eux seraient encore vivants lorsque le Fils de l'homme viendrait dans son règne. 2000 ans plus tard, force est de constater qu'il faut comprendre les choses un peu autrement. Et en fait, ce que Jésus voulait dire en parlant de ces quelques disciples qui ne mouraient pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne, il faisait très certainement allusion à ce qu'il se passerait 8 jours plus tard, c'est-à-dire que 3 des disciples, Pierre, Jean et Jacques, seraient avec lui sur cette montagne et qu'ils assisteraient à cet événement de la transfiguration et verraient de cette manière, un peu comme par avance, le Fils de l'homme venir dans son règne, venir dans la gloire. Et à partir de là, les choses sont claires, cette transfiguration annonce, préfigure bel et bien le retour de Jésus en gloire. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un détail de notre texte, et un détail qui concerne plutôt les disciples. Car il est dit, et vous l'avez entendu au verset 32, il est dit ceci, « Alors qu'ils étaient sur cette montagne, qu'il se passait quelque chose de tout à fait unique, il est dit, « Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. » Mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Suivant dans quelle traduction vous lisez régulièrement votre Bible, vous avez peut-être une légère nuance par rapport à cette traduction. Peut-être qu'il est dit que la traduction laisse entendre que les disciples n'étaient pas accablés de sommeil, mais qu'ils étaient clairement endormis et qu'ils se sont réveillés au moment où Jésus a été transfiguré. Mais pour nous, ce matin, cette nuance n'est pas très importante parce que ce que j'aimerais relever, c'est qu'il me semble, à travers ce qu'on peut lire dans les évangiles, que les disciples avaient une fâcheuse tendance à s'endormir dans les moments importants, dans les moments uniques qu'ils avaient l'occasion de vivre. Et je n'irai pas jusqu'à dire que chez eux c'était une habitude, mais ce n'est pas un cas unique, parce qu'on retrouve ce même problème alors que Jésus leur avait demandé de veiller avec lui lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané. Mais il a suffi que Jésus s'éloigne d'eux de quelques pas pour que nos braves disciples sombrent dans le sommeil, et ceci à 3 reprises. Et je me dis, c'est quand même assez curieux que dans des événements aussi, dans des moments aussi importants que ceux-là, sur la montagne, lorsque Jésus était transfiguré, dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus se préparait à devoir donner sa vie, que dans ces 2 moments-là, nos disciples s'endorment. Je fais partie de la génération de ceux qui ont eu le privilège d'assister et de voir les premiers hommes marcher sur la Lune. Peut-être quelques-uns d'entre vous aussi. Et je me souviens, c'était en 1969, si je ne fais erreur, et on était chez mes grands-parents qui, eux, avaient une télévision. Ce n'était pas encore aussi courant que maintenant, mais eux en avaient déjà une. Bon, il fallait discerner un peu l'image par la foi parfois, mais quand même, on pouvait s'apercevoir de quelque chose et on a pu voir ces premiers hommes marcher sur la Lune. Et personne, si mes souvenirs sont bons, n'aurait eu l'idée de dormir à ce moment-là. Parce que tout le monde savait que c'était quelque chose d'unique, qu'on verrait cela une seule fois, et qu'on ne le reverrait pas une deuxième fois, peut-être d'autres qui marcheraient sur la Lune, peut-être, mais les premiers, c'était totalement unique. L'année passée, notre grand champion Roger Federer a mis fin à sa brillante carrière. Et il y a des personnes qui, pour assister à ce match, ont payé plus de 10 000 dollars pour voir le match. Eh bien, j'imagine que s'ils étaient dans le stade, ils n'ont pas fermé l'œil une seule seconde pour pouvoir assister à cet événement. Et ici, dans notre texte, on a quelque chose de bien plus important que des hommes qui marchent sur la lune ou que Federer qui joue son dernier match. On a Jésus qui manifeste sa gloire. Et que font nos disciples? Ils s'endorment. Alors on dira, bon, c'était les disciples et on les connaît. Le problème, c'est que disciples, nous le sommes aussi, et jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas très différents d'eux. Et il y a une question qui se pose, est-ce qu'il y aurait effectivement chez les disciples une tendance à s'endormir dans les moments uniques de l'histoire? D'abord, est-ce qu'il y aurait un moment unique qui se préparerait en ce moment? Eh bien oui, il y en a un, le retour de Jésus. Alors, on ne sait pas quand il aura lieu, on ne sait pas si c'est demain ou dans 500 ans, ça, personne ne le sait, mais ce qu'on sait, c'est que chaque minute qui passe nous rapproche de cet événement. Et Jésus lui-même a mis en garde ses disciples en leur disant « attention ». Et je vous cite ce qu'il dit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, les versets 35 à 37, il dit ceci « veillez donc ». Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous le dis à tous, veillez. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire qu'il ne s'agit bien sûr pas du tout du sommeil physique, il s'agit du sommeil spirituel, le sommeil physique est nécessaire à notre vie, et si Jésus revient à 2h du matin, que vous êtes tranquillement dormi, pas de souci. Pour ce qui concerne le sommeil dans le sens physique, pour ce qui concerne le sommeil en spirituel, là, il y a réellement souci à se faire. Parce que lorsque Jésus reviendra, ce qu'il veut trouver, ce sont des disciples qui sont réveillés. Et le problème, c'est que le sommeil, comme je le disais, le sommeil physique est indispensable à notre vie, le sommeil spirituel, lui, ne l'est pas, mais il partage toutefois deux caractéristiques majeures avec le sommeil physique. La première de ces caractéristiques, c'est que nous ne nous apercevons pas lorsque nous passons de l'éveil au sommeil. Peut-être vous me direz, oui, moi quand je regarde le téléjournal, au bout d'un moment j'ai les yeux qui se ferment un peu comme ça. Mais si je vous demande à quelle heure précise vous vous êtes endormi hier soir, je suis sûr que vous ne pouvez pas me le dire. Vous pouvez me dire, je me suis couché à 22h, à 23h, mais vous ne pouvez pas me dire à quelle heure précise, quelle minute vous vous êtes endormi. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on passe de l'éveil au sommeil sans nous apercevoir de quelque chose. Tout à coup, on se réveille, c'est 3h du matin ou plus tard, puis on se dit « tiens, je me suis endormi ». Et on ne s'aperçoit pas qu'on passe de l'un à l'autre. Et c'est exactement la même chose dans le sens spirituel. On ne s'aperçoit pas qu'on passe de l'éveil au sommeil. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans le ministère pastoral. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était tout feu, tout flamme au culte un dimanche matin et qui me téléphone le lundi en disant « tu sais, je n'y crois plus ». Ce n'est jamais arrivé. Par contre, ce qui arrive, c'est que des gens tout feu, tout flamme, tout à coup, vous les voyez un peu moins souvent le dimanche, vous les voyez un peu moins souvent dans les réunions, vous sentez que quelque chose se passe. Et quand vous leur posez la question « mais qu'est-ce qui se passe ?», ils vous disent un truc du style « oh, vous savez, j'ai plein de choses, c'est temps ». Le problème, c'est que ces plein de choses souvent agissent comme des somnifères. Et les gens ne s'aperçoivent pas qu'en laissant leur vie se remplir de toutes sortes de choses, justement, le plus souvent, ces choses ont l'effet de puissants somnifères et on passe de l'éveil au sommeil spirituel sans nous apercevoir de quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des périodes de vie où on est plus chargé, où on a en effet plein de choses, ça fait partie de la vie, c'est normal, mais comme le dit Jésus, il y a à veiller afin de rester éveillé spirituellement et dans l'attente de ce retour de Jésus. Et puis la deuxième des caractéristiques qui est commune avec le sommeil physique, c'est que le sommeil nous rend insensibles au monde extérieur, en partie en tout cas. Si vous avez le sommeil léger, vous me direz « Non, non, moi, une mouche qui vole, ça me réveille. » Mais si on vous fait une bonne narcose, on peut vous découper en morceaux sans même que vous vous en aperceviez. Et le problème, c'est que notre ennemi sait cela et il n'est pas très avare quand il s'agit de distribuer les somnifères. Parce qu'il sait bien que du moment qu'on n'est plus en éveil, eh bien, il aura l'occasion, il trouvera une porte ouverte et aura l'occasion de nous plonger encore davantage dans le sommeil. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre cela et il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Maintenant, si il est absolument nécessaire d'être averti en ce qui concerne les dangers du sommeil, il est encore bien plus nécessaire de savoir comment rester éveillé. Et fort heureusement, notre texte de ce matin nous donne une piste. Et la piste est très simple, et vous allez le retenir, j'en suis sûr, pour le restant de vos jours, parce que c'est facile à retenir. Il est dit simplement, je relis au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils virent la gloire de Jésus. Et après qu'ils aient vu la gloire de Jésus, il n'est plus question de sommeil pour eux. Pourquoi ? Parce que cette gloire leur a, en quelque sorte, fait un électrochoc. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous endormez, si tout à coup le téléphone sonne. Ça arrive fort heureusement pas trop souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et puis, ça vous réveille. Hein. Et si vous étiez juste en train de vous endormir, vous avez remarqué qu'après, c'est souvent difficile de retrouver le sommeil. C'est ce qui se passe un peu ici. Nos disciples étaient accablés de sommeil, mais tout à coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils voient la gloire de Jésus. Et soit cette gloire les retire du sommeil complètement s'ils étaient endormis, soit elle leur met un bon électrochoc qui fait que, par la suite, ils ne s'endorment plus. Et pour nous, les choses sont identiques, c'est la gloire de Jésus qui peut nous maintenir en éveil. Alors vous me direz, oui, mais comment la voir ? Eh bien, le plus simple est de rechercher cette gloire dans les Écritures. Peut-être vous direz, mais non, parce que la gloire de Jésus, c'est les miracles, c'est comme ça qu'elle se manifeste. Et en effet, on le voit à Cana, par exemple, lorsque Jésus transforme l'eau en vin, il est dit après, il vire sa gloire de cette manière-là. Ou encore ici, sur cette montagne, lorsque Jésus est transfiguré, il est dit, il vire sa gloire. Seulement, alors bien sûr, cette gloire se manifeste aussi par des manifestations surnaturelles. Seulement, sans l'Écriture, on ne saurait pas que cette gloire se manifeste de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle il faut la chercher d'abord dans les Écritures et lorsqu'on la trouve là-dedans, on n'aura aucune difficulté à la discerner dans notre vie de tous les jours, car en effet, Jésus manifeste sa gloire de mille et une manières et si on est un peu attentif, il est possible de la discerner et cette gloire nous maintient en éveil. Une chose est certaine, c'est que la vision de cette gloire a durablement impacté les disciples qui étaient sur cette haute, sur cette montagne. Et on le sait par l'apôtre Pierre qui a écrit son épître et qui revient sur cet événement par la suite. Et on le sait aussi par l'apôtre Jean qui par la suite, lorsqu'il écrit son évangile, dit ceci au chapitre 1er, verset 14, « La parole a été faite chair. » Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Alors que nous aussi, nous qui sommes rassemblés ce matin, nous puissions contempler sa gloire, que de cette manière, nous puissions rester réveillés spirituellement, et si c'est le cas, alors nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, un jour ou l'autre, que nous soyons déjà dans la tombe ou pas encore, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Je vais prier encore avec vous, et puis ensuite le culte continuera de se dérouler. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es un grand Dieu. Et nous te louons, Seigneur, pour ta parole qui, jour après jour, nous maintient en éveil. Et nous te prions, Seigneur, pour que lorsque nous l'entendons, lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, lorsqu'elle se rappelle à nous par le biais de notre mémoire, c'est qu'au travers, Seigneur, de cette parole, nous puissions voir ta gloire. Et que, discernant cette gloire dans ta parole, nous puissions la voir également se manifester dans nos vies, que nous puissions contempler jour après jour ta gloire, et que de cette manière, nous puissions être éveillés et dans l'attente de ce retour glorieux, car nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Puissions-nous être réveillés à ce moment-là, que tu sois glorifié en toutes choses. Amen. Je vous remercie beaucoup.